Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour le Beaujolais et le Val-de-Saône, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 18 octobre 2022, journée très très ensoleillée dans le Beaujolais avec des températures autour de 24 degrés cet après-midi pour un 18 octobre, c'est surprenant. Dans notre émission, on ne va pas parler forcément météo, on va retrouver aujourd'hui le coach qui nous parle de dilemmes ces derniers temps. On va parler également de livres probablement, puisque nous avons rendez-vous avec notre libraire Bertrand Lamure. Mais d'abord, eh bien, on va accueillir notre invité du jour et on va parler d'une société locale à gouvernance citoyenne basée dans les Pierres Dorées avec pour objet l'installation et l'exploitation de centrales de production d'énergie renouvelable et la vente de cette énergie. Alors, plus simplement, on va parler de Sévidoré, une société citoyenne où je trouve qu'il y a des allures d'association, ils vont m'expliquer un peu la différence. Société qui s'est lancée dans la production d'énergie renouvelable dans les Pierres Dorées, donc. Ils vont inaugurer leurs premières installations ce samedi 22 octobre. Alors comment ça marche ces vidéorées? Quels sont leurs objectifs? On en parle avec notre invité Bernard Lemaignan, président de ces vidéorées. Juste avant, on commence comme d'habitude notre émission en musique. On écoute Hubert Félix Stephen avec Du soleil dans ma rue. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h12. Merci d'être avec nous.
Il y a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. Dans les jardins de la vertu, Minerve s'habille en guerrière. Mais moi qui ai rien d'un Mantegna, d'un Bellini, d'un Delacroix, je la peins sous les traits d'un rat. Dans la poussière, les bras en croix. Dans la poussière, les bras en croix. Il y a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. Je me sens comme un ange déchu qui se serait trompé d'atmosphère. La première meuf que j'ai connue m'a expulsé à 4 du mat dans une maternité perdue qui fabriquait des automates. Qui fabriquait des automates. Y'a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. J'évolue et je vole à vue, loin des circuits réglementaires. Avec mes pensées qui s'encrassent, dans le froid de mes nuits d'exil, j'arrive plus à faire cette grimace qui sert de rire aux imbéciles, aux imbéciles.
Y'a du soleil dans ma rue.
Y'a du soleil dans ma rue. Y'a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. La fille du soldat inconnu me dit, putain, bon militaire. Avec l'arsenal souterrain, planqué à l'abri de tes lois. Chacun des 7 milliards d'humains peut être tué 40 000 fois. Tué 40 000 fois. Du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. Le soleil se vit ses vertus, mais la vie me visse à l'envers. Laisse-moi te prendre par la taille et me noyer dans tes cheveux sur le capriccio de Kodai. Faisons semblant. Faisons semblant d'être amoureux.
Hubert Félix Tiefen sur Calade avec du soleil dans ma rue.
Ensemble sur Calade.
Et il devrait être question un petit peu de soleil aujourd'hui dans notre émission. Avec moi en studio, Bernard Lemaignan. Bonjour.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Bah, c'est un plaisir. Vous êtes le président de la société Sévie Dorée. Alors je me suis un peu pris les pieds dans le tapis en essayant d'expliquer ce que c'est exactement. C'est une société avec un statut particulier ?
Pas du tout, c'était tout à fait ça. C'est une société au sens où il y a un certain nombre d'actionnaires qui ont souscrit pour créer le capital de départ, mais qui est un peu particulière parce que elle n'a ni salariés, ni bureaux, ni infrastructure, ni secrétariat, ni rien. Donc elle est entièrement gérée et pilotée par des bénévoles, ouais, qui font marcher la boutique.
Pour ça que je vous disais qu'elle avait une allure d'association.
Et oui, mais il y a quand même des actionnaires et en sollicitant des personnes pour souscrire des actions, et ben nous on s'engage en retour à pouvoir rémunérer ce capital qu'ils nous apportent. Ben une action c'est 50 euros et puis quand on va produire prochainement de l'électricité, et ben on va donner un petit dividende à tous ces actionnaires.
D'accord. On va reprendre du début. Sévie Dorée, l'idée, c'est de produire de l'énergie dite renouvelable, de l'énergie verte.
C'est cela, et de la produire localement. L'idée étant de dire l'énergie qui est produite, que nous consommons, c'est l'affaire de tous. C'est pas uniquement l'affaire d'EDF et des grandes majors, mais on a, et particulièrement en ce moment, on a à se sentir concerné finalement par la question de l'énergie. Et une manière de se sentir concerné, c'est de se dire, mais on peut en fait, à l'échelon local, ouais, produire de l'énergie et participer à la création de l'énergie.
C'est-à-dire que c'est possible, c'est-à-dire qu'on entend des choses à la télé, à la radio qui sont un peu inquiétantes sur les questions d'énergie et en fait on se dit bah moi je peux rien faire à mon échelle mais si on peut faire des choses.
Finalement. On peut. Regardez, nous, on s'est regroupé en mars, avril 2019 à quelques-uns en se disant mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire. À peine un an après, en février 2020, on a créé cette société, donc qui est immatriculée au registre du commerce comme n'importe quelle société, avec un conseil de gestion, une gouvernance, des groupes de travail qui l'un sur la technique, l'autre sur la communication, le troisième sur l'informatique. Des questions juridiques et financières aussi. Et puis, deux ans après, on a maintenant plusieurs installations photovoltaïques qui sont en service, qui ont été réalisées, qui produisent de l'énergie. Donc, c'est possible.
Ouais. On peut refaire un petit peu l'historique. Vous avez dit, en 2020, la société a été créée. Avant, il y a déjà eu, j'imagine, pas mal de réunions, de temps de travail.
Oui.
Créer le projet.
En fait, l'origine vient de plusieurs habitants de la région, et y compris de conseillers communautaires, de gens qui étaient élus à la communauté de communes Beaujolais-Pierre-Doré, puisque vous savez que la communauté de communes doit faire un plan climat air, énergie territoriale. Toutes les communautés de communes doivent le faire, et la nôtre, celle de Beaujolais-Pierre-Doré, l'a fait comme tout le monde, et a inscrit dans son PCAET, la nécessité de recourir aux énergies citoyennes, donc à des groupes de citoyens qui participeraient à ce travail collectif pour créer de l'énergie locale. Donc ça, c'était... Et à partir de cette première intention, on a fait des réunions publiques un peu partout sur le territoire de la communauté de communes. On en a fait une dizaine, où on annonçait que tout le monde pouvait venir et discuter avec nous de comment faire pour prendre en main l'énergie sur notre territoire. Et ces réunions publiques, elles ont permis de constituer un noyau d'une quarantaine de personnes qui s'est dit, nous on a envie d'y aller. On veut faire ensemble. Donc très vite, en fait, on s'est structuré. Il y a eu, je le disais tout à l'heure, certains d'entre nous qui étaient très intéressés par la technique, pour d'autres qui ont été intéressés par les questions juridiques ou administratives, d'autres voulaient participer à la communication autour de ce projet. Donc on a créé plusieurs groupes de travail et une fois qu'on a un petit peu avancé, on a déposé les statuts.
Ouais.
Mais dès cette période-là, on est en fin 2019, début 2020, enfin toute l'année 2020, on a regardé aussi quelle toiture pouvait être exploitée pour installer dessus des panneaux photovoltaïques.
Comment est-ce qu'on les choisit, ces toitures ? C'est quoi les critères de...
Alors, c'est un processus qui est assez balisé. On regarde d'abord tout simplement sur Géoportail ou sur Google des toitures qui nous permettent, dont on pense qu'elles seraient pas mal situées.
Avec
et puis ensuite,
images satellites.
Voilà, images satellites.
Ouais, okay.
Et après ça, on utilise un logiciel qui s'appelle PVGIS, gisement photovoltaïque, qui nous permet à chaque emplacement de calculer le potentiel d'énergie photovoltaïque que l'on peut espérer de cette toiture.
D'accord.
En fonction de l'inclinaison, de l'orientation, de la surface. Voilà.
Ça dépend pas que de la surface du toit, c'est pas parce qu'il y a un grand toit que c'est forcément super.
Non, ça dépend beaucoup de l'orientation, évidemment, de la toiture. On divise par deux, voire par trois, la capacité de production s'il est mal orienté.
Ouais.
Donc, évidemment, une toiture plein sud et qui a une pente d'environ 30 degrés, c'est l'idéal.
C'est génial.
Mais c'est pas si fréquent que ça, finalement.
Ouais.
En fait, mais on peut aussi installer des panneaux photovoltaïques sur des toitures qui sont presque à l'est ou presque à l'ouest, pour autant qu'elle soit pas trop pentue et qu'il y ait un certain nombre de conditions autour. Voilà.
D'accord. Et ça, quand vous faites ce travail-là, les personnes à qui appartiennent ces toitures, vous les avez déjà contactées en leur disant on s'intéresse à vos toits ou pas ?
Alors non, à ce stade-là, pas du tout. C'est à ce moment-là, quand on a repéré, tiens, cette toiture-là, elle est d'une surface importante, elle est bien exposée, elle serait intéressante, qu'on va voir le propriétaire.
Ouais.
Et là, pour vous donner une idée, on a analysé comme ça sur logiciel environ 150 toitures et on a rencontré 80 propriétaires à peu près dans l'année 2020. Surtout 2020, début 2021. Évidemment, là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés, qui n'ont pas envie de travailler avec nous. Et de ces contacts avec les propriétaires, et puis en avançant un petit peu dans les études techniques, il nous est resté une vingtaine de toitures éligibles, comme on dit, à une installation. Et donc là, on commençait un certain nombre. Alors, on a signé une promesse de bail avec les propriétaires, et on a lancé un certain nombre d'études techniques par des bureaux d'études pour avoir une idée plus claire finalement de la faisabilité de ces installations.
D'accord.
Et au bout du compte, il nous en reste que 9. C'est-à-dire sur les 150 toitures explorées au départ, on a réalisé maintenant 9 toitures. Vous voyez qu'il y a une forte chute pour des raisons, je l'ai dit, d'acceptabilité par les propriétaires, mais aussi pour des raisons d'ordre technique. Quand la toiture est trop loin du domaine public, il faut créer un nouveau câblage pour injecter l'électricité. Ça peut coûter très cher. Parfois, c'est des questions esthétiques. L'architecte des bâtiments de France nous a refusé un certain nombre de projets. Parfois, c'est des questions juridiques purement avec les plans locaux d'urbanisme qui ne nous permettent pas d'installer. Donc, il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de difficultés qui se mettent en travers de la route.
Sur les 9 toits qui ont été choisis, ça représente quoi comme territoire ? On est toujours dans les pierres dorées, toujours sur cette communauté de communes.
Voilà, alors c'est toujours sur la communauté de communes et on a souhaité que ça soit très très réparti sur la communauté de communes. Parce que vous savez, dans notre communauté de communes, il y a la vallée de Saône qui est assez industrialisée, où il y a les grandes voies de communication. Et puis à l'extrême ouest, il y a la vallée de la Zergue avec des communes très rurales.
Ouais.
Mais vous voyez, les toitures qu'on a maintenant terminées, à Chamelay, on démarre un chantier à Lettra là ces jours-ci. On a aussi un chantier terminé à Châtillon d'Azergues, ou même de l'autre côté à Chasselet sur la toiture d'un des bâtiments de la station d'épuration de Chasselet. Et puis on a profité aussi à Porte des Pierres Dorées d'un chantier important que la commune menait pour un nouveau bâtiment administratif et associatif. Et du coup, à la fin des travaux de ce nouveau bâtiment, on a pu installer nos panneaux dessus. Voilà.
Ok. Donc, il y a des travaux qui sont encore en cours, il y en a qui sont déjà terminés.
C'est ça.
L'idée, c'est que à la fin de l'année, les 9 installations soient totalement terminées.
Ces 9 installations, elles auront une puissance cumulée. Alors, j'utilise un peu des unités que tout le monde ne connaît pas, mais elles auront une puissance cumulée de 340 kilowatts crête. D'accord. Ça veut dire que par un bon ensoleillement, elles pourront tout ensemble produire 340 000 watts. Ouais. Et elles vont donc, on espère avoir une production effective d'environ 400 mégawattheures par an. 400 mégawattheures, pour vous donner une idée, c'est la consommation moyenne de 85 à 95 foyers. Alors, c'est une valeur moyenne, hein, c'est beaucoup. C'est un peu moins lorsque les maisons sont chauffées à l'électricité ou les appartements chauffés à l'électricité. C'est beaucoup plus si on est sur une consommation classique d'électricité.
Une caisse de ville ou ce genre de choses. Donc ça commence à faire un bon rendement déjà.
Oui, c'est significatif. C'est d'autant plus significatif que finalement ça ne coûte rien à personne.
Une fois que c'est installé.
Voilà, c'est une énergie gratuite avec finalement des systèmes qui sont maintenant très très fiables. Vous savez, on nous interroge souvent, sur la fiabilité des panneaux. On sait maintenant avec le recul qu'on a une efficacité des panneaux maintenue à 85% au bout de 35 ans. Vous savez, on a les premières installations, donc on sait que les panneaux photovoltaïques, et encore, il y a eu d'énormes progrès dans la conception, donc on sait que maintenant, ils seront très fiables. On sait aussi maintenant parfaitement recycler les panneaux à 95-98%. Il n'y a qu'une fine pellicule de ce qu'on appelle l'EVA qu'on a du mal à recycler, mais sinon, on recycle très bien les panneaux et c'est prévu dans tout le cycle de vie. Donc, on a une énergie qui est propre, qui est décarbonée, qui est finalement extrêmement intéressante.
Et question à deux balles, s'il y a un panneau qui tombe en panne un matin sur un toit, comment ça se passe?
Alors, on a ce qu'on appelle un système de monitoring qui nous permet à distance de savoir précisément ce que produit chaque installation. Et pour certaines d'entre elles, pas pour toutes, mais pour certaines d'entre elles, on a même une capacité de diagnostic à distance, soit de chaque panneau, soit d'une chaîne de panneaux. Donc on sait que s'il y a une production qui tombe à tel endroit, ben on va pouvoir aller vérifier à tel endroit et on remonte sur le toit.
Ouais. Voilà. D'accord.
Donc en même temps qu'on a démarré l'exploitation de ces centrales, on a aussi organisé la maintenance de ces centrales, maintenance de premier niveau par nous-mêmes ou maintenance plus approfondie par des sociétés de maintenance.
Et on a parlé de l'installation de ce matériel, la réflexion qu'il y a eu avant de pouvoir le faire. Le nerf de la guerre, c'est les finances. Vous avez expliqué au début que ça marchait par des systèmes d'actionnaires.
C'est ça.
Ça a été compliqué de lever les fonds nécessaires.
Écoutez, en l'espace de 4 mois, tout à fait au début, on a levé avec les actionnaires fondateurs presque 36 000 euros. Un an plus tard, nous avions 85-86 000 euros, un peu plus d'un an plus tard. On est aujourd'hui 130 actionnaires avec un capital d'environ 90 000 euros. Et fait important, il y a 8 communes de la communauté de communes qui ont souscrit en tant que personne morale, puisque c'est possible, c'est rendu possible par la loi pour la transition énergétique et la croissance verte. C'est très important pour nous parce que ça veut dire que des conseils municipaux ont adopté l'idée de soutenir une initiative citoyenne comme celle-ci.
Ça a été facile de faire accepter l'idée ou il a fallu expliquer, faire preuve de pédagogie
On a rencontré quasiment toutes les municipalités de la communauté de communes Beaujolais-Pierre-Doré, à part une ou deux, mais soit le maire et ses adjoints, le conseil municipal, nous avons souvent été invités par le maire au conseil municipal. Et non, ça n'a pas été difficile. Il y a bien sûr des questions, celles qu'on a un petit peu évoquées là, mais il y a un élément aussi important, c'est que les contrats que nous avons avec les propriétaires, et y compris les propriétaires publics, parce qu'on a parfois des bâtiments publics, fait qu'au bout de 20 ans, nous rétrocédons l'installation aux propriétaires. Donc quand on installe, là on a installé une grosse centrale, par exemple je parlais de la station d'épuration de Chasselet, dans 20 ans, la commune de Chasselet deviendra propriétaire de plein droit de cette installation et pourra faire de l'électricité ce qu'elle veut, de l'autoconsommation ou de la revente. Donc pour les collectivités qui ont une durée de vie illimitée, c'est un atout assez intéressant. Et au fond, non, on a été toujours très bien accueillis. Toutes les communes n'ont pas souscrites, toutes les communes ne nous soutiennent pas forcément, mais aucune ne nous a rejetés.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas un intérêt lucratif énorme. Enfin, le but, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est de créer une indépendance énergétique à petite échelle, comme Colibri, mais...
C'est exactement ça. Ne devenez pas actionnaire de Cévidoré si vous voulez gagner de l'argent. On va rémunérer votre capital pour que vous ne perdiez pas d'argent. On espère rémunérer un petit peu au-dessus du taux du livret A, vous voyez. Mais on ne va pas pouvoir vous faire gagner des dividendes à deux chiffres. Comme vous le dites, ce qu'on espère, ce qu'on attend, ce sont des gens qui sont prêts à s'engager dans cette démarche tellement nous pensons-nous que la transition énergétique et écologique est urgente. Et voilà, il faut tous s'y mettre, sinon on ne va pas y arriver.
C'est possible encore de s'accrocher au wagon, je sais pas, de venir participer.
Oui, mais bien sûr. Alors, comme vous le disiez, si vous voulez juste tout simplement faire connaissance avec qui nous avons samedi à 10h l'inauguration qui est ouverte à tous, l'inauguration de l'installation photovoltaïque qui est sur le boulodrome de Châtillon-d'Azergues. C'est très facile à trouver. Quand on est à Châtillon, on traverse la voie de chemin de fer et puis il y a un grand secteur sportif, là, sportif et culturel, et on sera là, ça sera fléché. Donc venez nous rejoindre, ça permettra de discuter, mais de toute façon tout un chacun peut souscrire. Une action ça coûte 50 €, une action, 10 actions plus si on veut, et c'est pour nous une aide évidemment très importante parce qu'on a un deuxième ensemble de toitures qui se prépare pour les années 2023-2025. Pour souscrire c'est très simple, on a un site, cévidoré.fr, et vous verrez sur le site en haut à droite il y a un petit bouton souscrire et qui vous guide ensuite pour souscrire. Et puis si vous êtes intéressé à titre personnel pour ce type de chantier, ben il faut venir nous rejoindre pour contribuer, participer aux travaux. C'est finalement très stimulant et très intéressant à la fois sur le plan technique mais à la fois comme projet collectif aussi, parce qu'on avance tous ensemble, on se rencontre assez régulièrement, on a des systèmes d'échange d'informations et c'est tout à fait stimulant.
Très bien, Cévidoré. On n'a pas parlé des centrales villageoises. Rapidement, je pense que c'est un peu important quand même d'expliquer ce que c'est.
Vous avez tout à fait raison, c'est une association nationale qui regroupe l'ensemble des petites sociétés comme la nôtre. Et aujourd'hui, il y en a 60 partout en France. L'association des centrales villageoises nous fournit aussi beaucoup d'aide pour le démarrage, nous fournit des outils juridiques, des modèles économiques, nous donne beaucoup de tuyaux en fait pour pas faire de bêtises. Ouais. Et puis on a un système d'entraide ou de parrainage aussi. On a été aidé par une autre centrale villageoise, celle du Pays Mornantais à notre début. Et heureusement qu'il y a ces collectifs qui permettent d'avancer très vite, parce que sinon nous n'aurions jamais pu en 2 ans faire tout ce qu'on a fait.
Donc ce projet de Cévidoré dans les pierres dorées, il y en a d'autres qui existent un peu partout en France.
Voilà.
C'est quelque chose qui se développe.
Alors ça se développe énormément. Donc je vous dis, il y a 60 sociétés du type centrale villageoise partout en France. Et les centrales villageoises font partie d'un réseau encore plus vaste qu'on appelle le réseau des énergies citoyennes et qui est fédéré par l'association Énergie Partagée. Mais il y a environ 150, 160 même collectifs de ce type partout en France, dans toutes les régions françaises. Il y a même des réseaux européens, en fait, qui fédèrent ce type d'initiative. Énergie Partagée a même en son sein des collectifs citoyens qui font des projets beaucoup plus importants, y compris des projets d'éoliennes ou de microélectricité. Donc, ça se développe. C'est un mouvement, ces énergies citoyennes, qui sont soutenues par l'ADEME, l'Agence des énergies renouvelables. Donc, on a encore plein d'avenir devant nous.
Très bien, bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Bernard Lemaignan d'être venu nous présenter ce projet de Séville Dorée. Et donc, je rappelle, le rendez-vous, c'est ce samedi le 22 octobre à 10h au boulodrome de Châtillon-d'Azer pour l'inauguration de la première installation électrique.
Merci à vous.
À très bientôt. On va se quitter en musique. On va écouter Corinne et Juliette Armanet avec un morceau qui s'appelle Épopée solaire. Chouette duo, Corinne et Juliette Armanet, avec un morceau qui s'appelait Épopée solaire.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous m'acquittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Et oui, on retrouve tout de suite le coach dans Ensemble sur Calade. Bonjour, coach.
Salut, gamin.
Bon, comment allez-vous?
Ben, ça va très bien.
Et de quoi allez-vous nous parler?
Alors, mes louloutes, cette semaine, je vous propose de nous intéresser à un nouveau paradoxe qui nous fera voguer sur les flots de l'identité, le paradoxe du bateau de Thésée. Tan, tan, tan. J'adore faire des annonces comme ça.
C'est
un teaser d'un super film hollywoodien qui sort. Le gars Thésée, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est le gars qui a tué le Minotaure dans la mythologie grecque. Et c'était pas n'importe qui, hein, le gars Thésée. Et à son retour à Athènes, les gens étaient tellement contents que Thésée les ait débarrassés de cette abominable bête, hein, qui, je vous rappelle, pour assoiffer, pour répondre à sa soif de sang, il fallait lui envoyer de jeunes vierges. Donc, ça faisait un peu quand même mauvais genre, hein, d'être obligé de débarrasser des filles comme ça. Donc, ils ont vénéré Thésée et son bateau presque comme une relique. Mais pour maintenir ce magnifique bateau en bon état à travers les siècles, ils ont remplacé peu à peu les planches abîmées par des planches neuves. Et à un moment donné, Ah tiens, juste, je fais une petite digression. Je sais pas si vous avez remarqué cette locution, à quel point elle est amusante. À un moment donné, dès que c'est quelqu'un qui a l'accent du sud qui la prononce,
Mandonné.
Les gars, ils disent « à main donnée ».
Oui.
Au lieu de dire « à un moment donné ». Moi, j'adore quand on dit « à main donnée », je lui dis « c'est plus possible ». Donc, à un moment donné, l'entretien du bateau a fait que toutes les parties du bateau ont été remplacées. Mmh. Il ne reste plus de bois du bateau original lorsqu'il a été construit. C'est simplement du bois de remplacement qui a permis, au fur et à mesure des années, des décennies et des siècles, de maintenir ce bateau en bon état. Mais alors, question, mon gamin et mes louloutes, ce bateau est-il encore le bateau de Thésée ou avons-nous affaire à un nouveau bateau qui ressemble au bateau de Thésée? Vous avez 3 heures, je ramasse les copies à la fin de l'émission.
Et ouais, pas facile là.
Eh, pas facile de répondre à cette question, n'est-ce pas?
Ouais.
Alors, un philosophe, Thomas Hobbes, trouvant que la question n'était déjà pas assez difficile comme ça, il a poussé la réflexion un peu plus loin. Le gars, il a dit, imaginons que le bois qu'on a enlevé du bateau de Thésée, qui était un peu abîmé, a été conservé à chaque fois qu'on a changé une planche. Et qu'une fois qu'on a remplacé toutes les planches, on fabrique un nouveau bateau avec le bois de récup. Lequel des deux bateaux est le véritable bateau de Thésée? Celui d'origine, dont toutes les parties ont été progressivement remplacées, ou le deuxième bateau fabriqué à partir des matériaux du bateau d'origine? Ça complexifie encore le business.
Ouais.
Alors, ce paradoxe, on le retrouve sous une autre forme, avec l'histoire du couteau de Saint-Hubert. Le gars Hubert, il avait cassé la lame de son couteau, et donc il en a fait forger une nouvelle, et il l'a fait monter sur le manche de son couteau. Et puis, bien des années plus tard, le manche s'abîmant au fur et à mesure, il a dû être changé lui aussi. Et alors la question est, est-ce que le couteau de Saint-Hubert est encore le couteau de Saint-Hubert une fois que le manche et la lame sont changés? Eh bien, là aussi, c'est difficile de répondre comme ça, parce que chaque réponse qu'on va faire, chaque inclinaison qu'on va prendre va avoir des conséquences. Si on répond concernant le bateau de Thésée, que ce n'est plus le bateau de Thésée ou que le couteau de Saint-Hubert n'est plus le couteau de Saint-Hubert, une nouvelle question apparaît. À partir de quand le bateau de Thésée perd-il sa qualité d'être le bateau de Thésée? Est-ce dès la première réparation ou lorsque la dernière planche a été retirée? Alors, je vous rassure, mes louloutes, on ne va pas répondre à toutes ces questions tout de suite aujourd'hui dans cette émission. Parce que le paradoxe du bateau de Thésée, il n'a pas vraiment une réponse viable. Il y en a plusieurs. Le paradoxe, comme tous les paradoxes philosophiques, c'est une invitation à penser les choses, à faire un pas de côté pour se retrouver dans un piège de pensée et de réfléchir plus profondément. Et le paradoxe du bateau de Thésée nous fait réfléchir au concept d'identité. Il nous pose la question, qu'est-ce qui fait l'essence de l'identité, que ce soit l'identité d'un être humain, l'identité d'un animal, l'identité d'un arbre ou l'identité d'un objet. Si on prend du côté d'un être humain, est-ce qu'une personne qui a été greffée est la même personne qu'avant la greffe? Eh bien, la réponse, elle n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on peut dire, oui, alors physiquement, cette personne est un peu différente puisqu'elle a un organe qui ne lui appartient pas au départ. Mais d'un point de vue psychique, je pense que l'expérience de la greffe va aussi modifier l'identité intrinsèque de la personne. Parce que cette expérience de nature un peu extraordinaire, elle va faire changer la perception que l'on a de la vie, de la mort. Et peut-être qu'une personne greffée se rend compte qu'à un moment, elle a encore une vie à vivre et que cette vie est précieuse. Et forcément, ça va avoir un impact dans son identité, dans sa relation avec les autres, dans sa relation au monde.
Oui.
En réalité, les deux termes qui nous intéressent dans le cadre du bateau de Thésée et dans le cadre de l'identité, c'est de savoir est-ce que l'identité comme le bateau se renouvelle ou est-ce qu'il change? Parce que même si l'ensemble du bateau est renouvelé au niveau des matériaux, l'essence du bateau est toujours la même. La continuité de l'objet fait que l'on peut considérer que le bateau, dont plus aucune planche d'origine ne demeure, est celui qui a accompagné Thésée dans ses aventures. Donc si j'applique cette réflexion à l'identité, est-ce que je peux dire que mon identité est la même que celle que j'avais il y a 20 ans? Je pense que je peux répondre sans hésiter non, je ne suis plus tout à fait la même personne que lorsque j'avais 20 ans. Pour autant, puis-je encore dire que j'ai la même identité? C'est ça qui est un peu compliqué à répondre, je trouve. Ce que ce paradoxe nous enseigne, c'est que malgré tous les changements, il y a une continuité dans le sens, dans l'évolution de l'identité. Toutes les composantes de notre identité, les personnes avec qui nous sommes en relation, notre identité professionnelle, notre statut familial, notre identité même maintenant sur les réseaux sociaux, tout cela est toujours en mouvement. Et si on compare notre identité à deux dates éloignées, alors apparaît une impression de changement. Mais la notion de renouvellement ou d'évolution est bien plus dynamique. Elle montre que l'identité est en perpétuel mouvement. Ce paradoxe nous enseigne que rien n'est immobile et que rien n'est immuable. La stabilité et l'immobilité sont des fausses croyances, ce sont des illusions. Et tout le monde peut changer et prendre de nouvelles directions. Même ceux et celles qui disent « moi je suis trop vieux ou je suis trop vieille pour changer maintenant, pour me prendre comme je suis ». C'est une vieille excuse qui n'est pas valable. Alors, ce qui doit attirer notre attention, mes louloutes, c'est de savoir si nous avons gardé le sens de ce que nous sommes lors de notre évolution ou si nous l'avons perdu en cours de route.
Oh, question ô combien philosophique. Après tant de questions, on est débordé de questions, coach.
On est débordé de questions, mais des fois, ça fait du bien de se poser des questions. Il ne faut pas se poser des questions non plus tout le temps, mais de bien se rendre compte, et notamment grâce au paradoxe, de bien se rendre compte que la vie, elle n'est pas binaire, elle n'est pas aussi simple, elle n'est pas manichéenne, diraient les gens intelligents, et que ça vaut le coup de s'intéresser à la complexité des choses.
Très bien, merci beaucoup coach.
Salut mes louloutes.
À très bientôt, ciao ciao.
Ensemble sur Calade.
Allez, est-ce que le bateau c'est encore le même ou est-ce qu'il a changé? Moi je ne sais pas, choisir un petit peu comme Émilie Loiseau.
Je dors toute seule, je me dis Dieu, ce serait bon de partager mon lit avec un garçon. Quand je partage mon lit avec un garçon, je me dis dormir toute seule, Dieu, ce serait bon. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant. C'est tellement troublant, laissez-moi dormir. Quand chez l'Indien je prends un poulet tikka, je me dis ça serait mieux un agneau korma. Quand finalement je mange des gambas au raisin, je me dis j'aurais dû prendre végétarien. Ah non mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant. Laissez-moi dormir quand je veux me jeter du pont du carrousel. Je me dis finalement non, la vie est belle. Quand quelqu'un me dit Dieu que la vie est belle, je voudrais me jeter du pont du carrousel. Ah non mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant. C'est tellement troublant, laissez-moi dormir. Quand je veux mourir le mercredi matin, je me dis ça peut attendre jeudi matin.
Ça a pris une tournure un peu sombre cette chanson. C'était Émilie Loiseau, Je ne sais pas choisir.
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Allez, pour nous parler littérature aujourd'hui, on retrouve Islem. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ça va
alors
bien
moi, ouais, ben ça va bien, merci. Et toi?
Super, super. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, on se consacre aux enfants.
Très
et
bien.
Je vais vous proposer des livres super sympas pour les vacances, parce que c'est bientôt les vacances.
Eh oui, c'est vrai.
Du coup, je vous ai préparé une petite sélection sympa pour plusieurs âges, et j'ai hâte d'en parler.
Bon, on commence par quoi?
Eh ben, on va commencer par le dernier petit bijou de Chris Octon, qui est pour les tout-petits, qui s'appelle « Bravo Maman Manchot ». Et c'est juste trop sympa. C'est une collection qu'on aime beaucoup, qui est éditée aux éditions Thierry Magnier. Et cette fois, la maman Manchot, elle va partir à l'aventure, en fait, pour... toujours sauver son petit bébé. Elle va escalader, elle va sauter des montagnes, elle va faire des tas de choses sympas pour satisfaire son enfant. Et c'est juste trop, trop, trop mignon et c'est parfait pour les vacances.
Et pour les tout petits, avec partir de quel âge ?
Ouais, je dirais 3 ans facile, 3-4 ans, même plus petit en fait, parce que comme c'est un grand format, les photos, les images, elles sont très colorées, du coup, même les tout bébés, ça va les intéresser.
Super, bravo maman Manchot, déjà rien que le titre, moi ça me donne envie.
C'est trop sympa. Pour les un petit peu plus grands, je dirais à partir de 6 ans, là, on part un petit peu dans l'histoire et dans la musique orientale, où c'est l'histoire de Om Kelthoum, qui est une grande diva orientale. Et en fait, c'est son histoire. Ça s'appelle Oum. C'est édité aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulé. Et c'est un vrai petit bijou pour les enfants.
D'accord. Donc, on parle de musique, on découvre un personnage.
Tout à fait. On parle de musique, on découvre en fait son histoire à elle. Le fait que ça soit, quand elle était petite, en fait, c'était une petite paysanne à la voix absolument extraordinaire. Et après, il y a toute son histoire. Mais je peux pas tout dévoiler. Il faut venir le découvrir. Et les illustrations, elles sont vraiment très, très réussies. C'est très poétique.
Oum.
Oum, tout c'est à ça. Fait.
O-U-M.
O-U-M, exactement. Et c'est aussi écrit en arabe.
Ok. Et c'est de qui ?
Alors, c'est de Alice Brière-Hacquet et de Bruno Lyon.
Okay.
Et c'est vraiment très très chouette. Là pour le coup, j'ai envie de dire c'est pour petits et grands parce que Om Kelthoum, c'est une grande diva de la musique, donc ouais. Les parents auront plaisir à réécouter ou à écouter ou à découvrir son travail qui est merveilleux.
Ok, donc on l'offre à l'enfant et puis on lui pique pour le lire en cachette.
Mais c'est ça, c'est ça. En cachette ou pas ?
Ou pas, oui, on n'est pas obligé.
On n'est pas obligé, tout à fait. Alors là, on part plutôt en cuisine, où là, ça va être pour des enfants un petit peu plus grands encore, où tu vas me dire si c'est déjà des enfants qui aiment lire et qui savent lire 6 ans, ça peut fonctionner aussi à partir de 6 ans. Mais tout dépend du niveau de la lecture. Normalement, c'est conseillé pour 7 ans, mais si à 6 ans, on est déjà un bon lecteur, ça peut le faire aussi.
Okay.
C'est un petit texte qui est trop mignon, qui s'appelle « Aux douceurs enchantées ». Et là, on est dans c'est le tome 1, hein, donc c'est vraiment très récent. C'est de la rentrée littéraire jeunesse. C'est chez Gallimard Jeunesse. Et c'est autour d'une famille, en fait, la famille La Douceur. Et le nom est trop mignon, j'adore. Il y a la grand-mère, il y a donc Madeleine la douceur qui est la mamie, il y a Candy la douceur qui est la petite fille, il y a aussi les animaux, il y a Chouquette, il y a Cookie, et c'est juste trop mignon. Et en fait, chez les la douceur, bah, il y a un secret de famille.
Ah.
Et un secret de famille dans la pâtisserie. En fait, mamie, elle est pâtissière, mais elle est peut-être pas magicienne. Mais peut-être que si. En fait, elle dit qu'elle est les deux à la fois. Et en fait, mamie la douceur, c'est une pâtissienne. Et c'est absolument extraordinaire. Je ne peux pas vous révéler le secret, évidemment. Il faut vous plonger dedans. Et c'est de Aurélie Gerlache. Et c'est illustré par Maude Bégon. Les illustrations, elles sont trop, trop mignonnes. C'est vraiment super sympa.
Des magiciens pâtissiers, si j'ai bien compris.
Voilà.
Aux douceurs enchantées.
Exactement. Et il y a beaucoup de choses dans le titre déjà, mais je peux pas tout révéler, sinon je vous raconte trop de choses et c'est pas cool.
Bon, ça a l'air super joli en tout cas.
C'est très sympa, ouais. Vraiment, je recommande et c'est très très coloré. Donc vous êtes les bienvenus à la librairie pour voir tous ces petits bijoux littéraires pour les enfants.
Très bien.
Du coup, si j'ai encore quelques minutes, bah je veux bien continuer.
Ouais, bien sûr.
Où là, on est. Alors là, on part en Asie. Et c'est aussi un petit bijou de la littérature jeunesse qui s'appelle Monsieur Pan. Et là, c'est édité chez Castor Roman. C'est en fait par l'autrice du best-seller Inconnu à cette adresse, qui s'appelle Catherine K. Chris Mann Taylor, j'espère que je le prononce bien, et c'est illustré par Camille Garoche. Et en fait, c'est un petit monsieur qui vit seul et qui a peur de tout. Mais il a peur absolument de tout. Jusqu'au jour où ses neveux, les enfants de sa sœur qui va malheureusement décéder, vont venir bouleverser son existence. Et en fait, du coup, il y a tout un tourbillon de joie qui va venir le traverser. Et c'est juste super génial, en fait. C'est comme si ce monsieur Pan, qui est très touchant, il allait redécouvrir le doux parfum de la vie. Mmh. Et encore une fois, les illustrations sont super chouettes. Et l'histoire est très, très poétique.
Ça s'appelle comment déjà ?
Très sympa. Ça s'appelle Monsieur Pan.
Super.
Pan, okay. P-A-N. Et c'est édité aux éditions Castor Roman.
Okay.
Et comme je parle des éditions Castor Roman, je vais continuer avec Nouna. Et là, j'ai pas précisé l'âge, mais c'est à partir de 7-8 ans. Là, c'est trop, trop mignon. En fait, c'est l'histoire de Nouna, qui est une petite fille inuite. Et c'est trop sympa parce que elle vient d'avoir 10 ans et elle a plein d'envie d'aventure, en fait. Et à travers ce livre, les enfants, ils vont partir avec elle à la découverte du Grand Nord et de la nature sauvage du Grand Nord. Et il va lui arriver plein d'aventures, évidemment, mais je peux pas tout raconter. Et il y aura une aventure pour chaque saison. Et c'est super sympa parce qu'on apprend plein de mots inuits.
Ah oui.
Celui-ci est un de mes coups de cœur de la rentrée littéraire et ça a été fait par Pierre Gemme.
Okay.
C'est vraiment très très chouette.
Et je veux bien reprendre le nom. Que ça me...
Nouna, ça s'appelle.
Nouna, je me fais ma petite liste en même temps.
Ah ben oui, tout à fait. Excuse-moi, je te laisse le temps de tout noter parce que c'est vraiment chouette.
Très bien. Est-ce que tu as une dernière proposition pour nous ?
Alors, du coup, on va parler un petit peu pour les ados.
Parfait.
Parce que je n'oublie pas mes petits ados.
Très bien.
Et là, en fait, c'est Brigitte Giraud qui a fait un texte absolument magnifique pour les adultes qui s'appelle « Jour de courage ». Et en fait, il vient d'être adapté pour les ados, en fait, et ça s'appelle « Portée disparue ». Et c'est illustré par Laurie Lecoux. Mmh. Et c'est juste une petite merveille. En fait, vous êtes autour de ce petit Livio qui va faire un exposé sur les autodafés nazis et sur le médecin juif allemand Magnus Hirschfeld. Et en fait, ce médecin allemand qui a évidemment existé, c'était un monsieur qui militait pour l'égalité entre hommes et femmes et les droits homosexuels. Et ce petit Livio, donc lors de son exposé, c'est un petit peu une manière de revendiquer quelque chose. C'est pour lui un moment de courage, comme une forme d'aveu. Sauf que il va malheureusement s'en prendre plein la figure et suite à ça, il va disparaître.
D'accord.
Et je vous en dis pas plus. Ça s'appelle Portée disparue, c'est d'une beauté infinie. Et ça, c'est du coup pour les ados, à partir de 12 ans.
D'accord.
Et c'est vraiment très, très, très chouette. Et si, Mathieu, s'il te plaît, il me reste quelques minutes.
Oui, bien sûr.
Merci beaucoup. Je voudrais juste dire qu'on reçoit Mary Gimbert, qui est une super prof d'anglais, qui va faire des petites histoires en anglais à la librairie la première semaine la première semaine de vacances scolaires, pardon.
Ouais.
C'est les mardis, mercredis et jeudis, donc le mardi 25, mercredi 26, pardon, jeudi 27 octobre, de 16h à 17h, elle va lire des petites histoires en anglais.
D'accord.
C'est super sympa, donc évidemment les enfants sont les bienvenus. C'est entre 4 et 9 ans.
Pour commencer à apprendre un petit peu l'anglais avec des jolies histoires, pourquoi pas.
Tout à fait, absolument.
C'est
tout
une bonne
à fait.
Idée. Merci beaucoup pour ces idées de lecture. Bah, on a de quoi faire, j'ai l'impression.
Eh bah bien oui, tout à fait. Bah, merci à toi et merci à tous. Et bonne lecture et bonne écoute sur Radio Calade.
À très bientôt, bonne journée.
À bientôt, merci Mathieu, bonne journée. Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah, il nous reste une petite minute. C'est la fin de notre émission Ensemble sur Calade. Merci de nous avoir suivis. Vous la retrouverez bien sûr en réécoute sur radio-calade.fr. Rediffusion, eh bien, demain matin à 10h. On a quelques secondes pour se quitter en musique avant vos pages d'information de 13h. On écoute quelques notes des Eagles. Take it easy. À demain. Ciao, ciao. My load.
the sound of your own wheels.